ma part, je vais faire aussi un peu plus court que prévu parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Ça nous semblait important de nous projeter dans l'évolution de la profession parce que quand on veut améliorer notre formation, eh ben, faut qu'il y ait une certaine logique et qu'il y ait, que l'on ait tous les bases pour justement réfléchir ensemble là-dessus. J'étais partie sur quatre axes d'études. La première, on en a beaucoup parlé, c'était l'évolution des besoins en santé des patients. Donc avec, je ne vais pas tout reprendre, vieillissement de la population, développement des maladies chroniques et des polypathologies, et donc qui nécessitaient une adaptation des pratiques professionnelles à ce type de pathologie, à ce type de prise en charge. Et il y a d'ailleurs toute une réflexion qui a été lancée par l'OMS sur les maladies chroniques. Il y a notamment un rapport en 2005 qui est sorti, qui est intitulé « Former les professionnels de santé du 21e siècle, le défi des maladies chroniques ». Donc on est vraiment dans l'air du temps et c'est vraiment voilà, ce qui nous attend pour les années à venir. C'est vraiment une formation adaptée des professionnels qui répondrait à la demande en santé. On en a aussi parlé sur l'évolution de l'hospitalisation à domicile, qui montre que les besoins des patients ils évoluent. En 4 ans, on note une activité de l'hospitalisation à domicile qui a augmenté de 2, qui s'est multipliée par 2,5. Donc c'est quand même énorme. Les gens préfèrent être chez eux et de toute façon, on est dans le retour précoce à domicile. Il est recommandé parce que on considère que quand le patient il est chez soi, déjà, il est dans un contexte plus favorable. Il y a moins de risques d'infection nosocomiale et au niveau, ça limite aussi les dépenses en santé. Donc il y a un essor considérable de l'hospitalisation à domicile. Et donc à l'heure actuelle, la tendance, c'est vraiment le soin qui va au patient et c'est plus le patient qui va au soin. La FNESIA encourage aussi la création des maisons de santé pluriprofessionnelles. Donc sur cette collaboration pluridisciplinaire qui permet de réinvestir la médecine de proximité et d'optimiser l'offre de soins, parce que quand on est âgé, qu'on est à domicile et qu'on a un petit peu de mal à se déplacer, quand on doit aller voir un médecin dans un village, aller faire sa prise de sang dans l'autre, et puis etc., quand on a des polypathologies qui nécessitent des interventions de plusieurs professionnels de santé, c'est vrai que ce type de collaboration, cette réunion de professionnels sur un seul secteur, ça optimise l'offre de soins et ça facilite aussi la vie des patients. Donc l'évolution des besoins en santé, ça nécessite vraiment une adaptation des pratiques professionnelles pour les années à venir. Le deuxième point que je développais, c'était la démographie sanitaire. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit, je vais nuancer un petit peu, je vais relativiser. Pour ce qui est du nombre de médecins en Europe, on est le deuxième pays. En fait, on n'est pas si mal placé que ça, on est derrière la République tchèque. Par contre, nous sommes avant-dernier. Pour ce qui est des infirmiers, il y a seulement 7,9 infirmiers pour 1000 patients en France. Donc, même si on représente la première profession médicale en France, on note quand même cette notion de pénurie. Donc, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit avec les régions. Et la pénurie au niveau des professionnels médicaux nous incite à mettre en place de plus en plus de coopérations sanitaires, ce qui a été développé par Madame Perruez. Et qui consiste en fait à un transfert de compétences. Ces coopérations sanitaires, en fait, c'est les prémices des nouveaux métiers de santé. Ça répond de la part à une demande de soins avec l'évolution des besoins des patients. Et ça répond aussi à une demande des professionnels. Ce matin, il y a Madame Estrine Béard qui est venue faire une formation sur les abandons de formation. Je pense qu'il y en a certains qui y sont allés. Et Madame Estrine Béard est aussi responsable de l'enquête Press Next en France, qui est une enquête européenne sur le burn-out des professionnels. Le burn-out, c'est quoi ? C'est l'épuisement professionnel. Et l'épuisement professionnel, ça veut dire qu'il y a énormément de professionnels qui partent de façon anticipée de leur travail. Et l'une des raisons évoquées, c'était la plus importante à nos yeux, c'était ce manque de perspective d'évolution professionnelle. À l'heure actuelle, en France, il n'y a que 8,5% des infirmiers qui sont spécialisés. Les spécialisations, vous les connaissez, c'est IAD, IBOD, PUER et cadre de santé. À l'heure actuelle, c'est les 4 seules spécialisations qui sont proposées et qui sont délivrées, parce qu'il y en a bien d'autres, mais qui sont moins reconnues. Vous avez des diplômes universitaires, sauf qu'un diplôme universitaire, ce n'est pas reconnu au niveau national. C'est délivré par une université. Et vous avez par exemple le DU soins infirmiers en réanimation à Nice, infirmière experte en urologie à Paris et à Rouen. Et en fait, il existe peu de choix pour les infirmiers afin d'évoluer, de se spécialiser et d'étendre leur champ de compétences. Et pourtant, cette spécialisation, c'est vraiment une volonté de la part des professionnels et c'est une motivation qui est indispensable pour éviter un épuisement professionnel qui est vraiment trop fréquent au sein de la profession infirmière. Et cette année, d'ailleurs, le ministère a lancé une mission d'information parlementaire sur les nouveaux métiers de santé qui est menée par M. Hénard, qui en fait se donne pour objectif d'étudier ses possibilités d'évolution professionnelle. L'AFNESIA a été auditionnée lors de cette mission d'information et a réaffirmé sa volonté de voir s'ouvrir des masters de spécialisation, notamment sur 4 domaines qui sont jugés essentiels en fait, pour ouvrir la voie de ces spécialisations. Le domaine de la clinique, le domaine de la coordination des soins, le domaine de la pédagogie et le domaine de la recherche. Et en fait, ces masters, ça représente vraiment le point de convergence entre les besoins de la population en matière de santé et la volonté des professionnels. Ensuite, pour parler d'évolution de la profession infirmière, on peut aussi s'interroger sur l'évolution du système de soins français. Alors, après plusieurs gouvernements qui sont restés un petit peu immobiles, on a enfin réorganisé tout le système de soins avec la loi HPST qui modifie l'organisation du schéma de santé comme on a pu le connaître avant. Et maintenant, dans les 10 années à venir, va falloir évaluer la pertinence de ce système et peut-être trouver de nouvelles solutions pour financer les dépenses de santé et contrer le déficit budgétaire. Ça peut être intéressant de s'ouvrir aussi à ce qui se passe au niveau des autres pays. Par exemple, un exemple dont on a parlé récemment, c'était le projet Stockholm en Suède. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'état des lieux, c'était vraiment des files d'attente de 6 mois. C'était un contexte de santé très difficile. Et le gouvernement a voulu mettre en place un système novateur pour réussir vraiment à contrer toutes ces problématiques. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'était d'impliquer réellement les professionnels dans la vie économique de leurs établissements. Et donc, tous les salariés d'un établissement de santé ont été dotés de parts et qui doivent rendre, en fait, quand ils quittent leur travail, et ce qui permet, en fait, d'être impliqués dans la vie vraiment économique de l'établissement et de se poser la question de tous les investissements qui sont faits et des utilisations qui sont faites du matériel, voilà. Donc ça, c'était une idée, c'est une idée parmi d'autres, mais ça a permis, en tout cas là-bas, d'améliorer la prise en charge, de diminuer les files d'attente et le temps d'hospitalisation de façon efficace et pragmatique. Ensuite, on peut s'interroger sur une autre chose. Les progrès médicaux, c'est bien, ça a augmenté l'espérance de vie. Et si on a surajouté du temps à la vie, on va dire qu'il faut aussi rajouter de la vie au temps. Et il faut améliorer vraiment la qualité de la vie des patients. Et pour ça, il faut adapter réellement notre prise en charge. À l'heure actuelle, pour cette adaptation des pratiques professionnelles, on a très peu de recul et on a très peu d'outils pour évaluer nos propres pratiques. Aujourd'hui, on peut se poser la question, quand un infirmier est dans un service, comment il peut se dire, quels sont les outils qui sont mis à sa disposition pour évaluer ses propres pratiques professionnelles, comment il peut faire si on ne lui donne pas d'outils. La recherche, c'est le moyen de répondre à ces problématiques, c'est le moyen de développer des outils pour évaluer les pratiques professionnelles sur les années à venir. Et en France, on a énormément de retard dans ce domaine par rapport à nos collègues outre-Atlantique, parce qu'au Canada, les infirmières, elles sont diplômées en sciences infirmières et elles sont au cœur même de projets de recherche-développement. Et les étudiants qui font des doctorats et qui passent des thèses, ils reçoivent des bourses d'études, justement, pour leurs travaux. On en est bien loin en France. Et en fait, l'infirmière, elle va jouer un rôle clé dans le domaine de la recherche, parce que c'est elle qui va se poser des questions sur sa pratique. Vous avez le chercheur qui va essayer d'offrir une réponse, et l'infirmière derrière, clinicienne, qui va juger de la pertinence et de la qualité de la recherche. C'est le cercle vertueux. Mais au-delà de cette génération de savoir, il faut aussi s'intéresser au transfert de savoir. Parce que si dans les années à venir, la recherche elle doit tendre à se développer, ça ne peut pas se faire sans que ces connaissances engendrées elles soient transmises, d'une part aux professionnels dans le cadre de la formation continue, mais également aux étudiants dans le cadre de la formation initiale. Mais à l'heure actuelle, qui des formateurs ou des professionnels de santé sont formés à la pédagogie pour les jeunes adultes et au transfert de savoir ? C'est un point à développer si on veut vraiment avoir un système de soins qui soit efficace et réactif, parce que si on réinjecte les savoirs de façon systématique, le système de soins il va jamais être en décalage avec la demande, surtout qu'on a des pratiques professionnelles qui évoluent très très vite, et on va garantir vraiment une prise en charge de qualité pour tous les patients. Si je devrais conclure sur l'infirmier de demain, qu'est-ce que ça serait ? L'infirmier de demain, ce serait quelqu'un qui saurait s'adapter aux évolutions des savoirs et des pratiques engendrées par l'évolution des besoins de la population. L'infirmier de demain, il doit pouvoir évoluer dans un champ d'expertise qui est particulier au rôle infirmier. L'infirmier de demain, il doit aussi être capable d'évoluer ses propres pratiques professionnelles et celles de son milieu professionnel aussi. Et l'infirmier de demain, il doit être capable de générer des savoirs mais aussi de les transmettre.